Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 161e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 12 septembre et au sommaire de cette émission, énormément de parutions d'essais bien sûr, puisque c'est le Villain Month. Vous aurez plein de numéros 23.1 ou .2, puisque c'est la deuxième semaine. Du côté de l'indé, des nouvelles séries ainsi que des classiques, comme Mars Attacks ou encore Walking Dead. Et enfin, chez Marvel, la suite de l'event Infinity et aussi Battle of the Atom. En fin d'émission, comme chaque semaine, nous parlerons des grosses sorties TPB de la semaine. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi cette semaine pour vous parler de toutes ces nouvelles sorties, Sam.
Oui.
Mister René Benny.
Non.
Flo.
Bonsoir. Peut-être. Steve, bonsoir chers collègues, bonsoir chers auditeurs.
Le classicisme le plus total. Et enfin
l'ordre
Bruno
du jour, oui, bonsoir à toutes et tous.
Comme vous voyez, 5 personnes, ça va être compliqué ce soir, ça va être fun, ça va partir dans tous les sens. Et surtout, on va commencer tout de suite avec le Justice League 23.2 qui, déjà, je sais, va nous faire partir en cacahuète.
Oh oui.
Bruno, donc, c'est à toi.
Donc c'est centré sur Lobo et c'est écrit par Marguerite Bennett et dessiné par Ben Oliver et Cliff Richards. Donc Marguerite Bennett, c'est une scénariste qu'on a découvert très récemment chez DC. Elle avait fait l'annual de Batman qui était pas extraordinaire.
Elle avait fait tout l'annual, c'était pas juste un backup qu'elle avait fait dans l'annual ?
Il me semble que c'était l'annual. Ouais.
Ah d'accord, pardon.
Et donc
c'était un plot de base de Snyder, mais c'était elle qui avait écrit tout le truc.
Ouais. Donc là, en fait, elle a décidé de prendre le personnage de Lobo et de nous le présenter. Et alors là, grande surprise. Enfin bon, ceux qui avaient lu les sollicitations et puis qui avaient suivi les news se sont rendus compte que Lobo a bien changé dans les news.
Ou qui avaient écouté les weekly news quand même.
Et oui, faisons la pub pour nous.
Mais autopromo, merde.
Autopromo. Donc voilà, on a un Lobo qui a changé complètement. Et alors donc avec un look un petit peu à la Elvis Presley façon banane, des petits trucs un peu dégueulasses sur le visage bleu bizarre. Voilà, mais ça reste quand même toujours un Lobo toujours aussi badass, malgré tout il est quand même assez puissant, assez violent, chasseur de primes, et en fait il bosse pour un mec qui lui envoie faire des contrats, donc là il nous le présente, et en fait on se rend compte que ce Lobo a quand même un plan, en fait il cherche aussi une information au capital, puisque a priori il y aurait un usurpateur, et cet usurpateur ce serait peut-être celui qu'on voit dans les pages de Stormwatch par exemple. Celui qui a le bon vieux look qu'on aime bien.
T'en as peut-être dit un peu trop quand même là.
Ouais,
bah non, c'était un moment qu'on l'avait dit.
Voilà, mais c'est surtout pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce Lobo là, alors qu'on a quand même déjà Lobo qui a été introduit dans Deathstroke, qu'on a vu après dans Stormwatch, où c'est quand même un des personnages principaux. Voilà, dès qu'on commence, on voit ce Lobo qui est complètement différent, avec son look un petit peu plus genre beau gosse, playboy. Donc voilà,
et pourquoi ce serait pas lui l'usurpateur, je pige pas.
Eh ben, ça vous verrez après dans le comics, mais c'est ça qui va être intéressant.
Non, on voit pas.
C'est ça qui va être intéressant de voir, c'est qui va gagner, parce qu'on s'attend à ce que plus tard on aura peut-être une confrontation entre les deux. Mais voilà, donc c'est un numéro qui avait fait beaucoup débat sur le net quand on a vu le nouveau design de Lobo. Moi j'ai trouvé qu'au final c'était assez intéressant puisque moi j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer quand les deux Lobos vont se rencontrer. Donc Il y a du potentiel au niveau scénaristique. Après, le personnage en lui-même, si c'est vraiment le vrai Lobo qui restera après dans les New 52, ça me ferait un peu chier, ça c'est clair.
Sam.
Ouais, pas aussi enthousiaste que Bruno. Je vois pas l'intérêt de l'histoire. C'est surtout ça, quel intérêt d'avoir deux Lobos qui se foutent sur la gueule, surtout un qui, à mon sens, ne passera pas l'hiver. Donc,
il est un peu trop maigre.
Voilà, oui, il y a pas beaucoup à bouffer dessus, donc ça pas d'intérêt, quoi. Cette histoire n'a aucun intérêt à la base.
Malheureusement, on sait déjà qui va gagner, et à moins que DC se mette à écouter ses fans, ce qui serait bien une première fois, on sait très bien déjà qui va gagner.
Ah, je suis pas si sûr que toi, je pense que justement on peut être surpris. vu la montée de bouclier, et puis bon, vu quand même que Lobo, c'est quand même un personnage assez mythique.
Ils ont cédé, si, ils ont déjà cédé aux fans DC, rappelons-le, ils ont cédé avec le retour de Gail Simon sur Batgirl.
C'est vrai.
Ils ont écouté les fans, surtout avec la disparition de Jason Todd. Ce serait bien qu'ils en fassent un truc comme ça avec ce nouveau Lobo.
Oui, pourquoi pas.
Ouais, ça pourrait marcher, ouais. Non, il y a deux choses à retenir, c'est qu'on nous replace le concept qu'avait apporté Jeff Jones avec notamment le coup de Brainiac. Avec, oui, tous ceux que vous avez vus, c'était pas les vrais. Voici le vrai qui arrive enfin.
Ouais, c'est une vraie connerie.
Alors, autant je trouve qu'avec Brainiac et la façon dont on avait amené Jeff Jones, ça marchait bien. Là, pour moi, ça marche pas. Pas du tout. Ça, t'avais pas aimé la version Brainiac de Jeff Jones?
C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal avec cet arc.
Moi, je trouvais que c'était bien amené, mais enfin bon, après tout, pourquoi pas. Et surtout, on nous avait dit, au final, quand on avait parlé de toutes ces premiers designs qu'on avait vus de Lobo, un espèce de Lobo emo goth absolument dégueulasse, dessiné par Rocafort, qui pourtant d'habitude dessine bien, mais là, c'était vraiment raté, on nous avait dit, vous verrez dans les pages du comics, il est pas comme ça. Effectivement, il est pas comme les premiers designs que l'on avait vus. J'ai envie de dire encore.
Oui, il est moins bien.
Oh non, il est mieux parce qu'attends, le côté emo goth.
Ben Oliver, bof.
Oh, c'était pas si mal, hein. Franchement, Ben Oliver.
Ben Oliver est très bon sur les covers. Sur les pages intérieures, franchement, il a du mal. Hein. Non, notamment au niveau du dynamisme qu'il peut apporter.
C'est pas dégueulasse, quand même.
Ah, je parle
il y a des scènes
de
d'action, moi.
Je parle pas de la qualité du dessin, je parle vraiment du design du logo. Ouais. Celui qui nous avait été présenté au départ dans la section What's New in the New 52, et ce que l'on voit dans les pages, ils avaient clairement dit attention, il est pas exactement comme ça dans les pages, et effectivement c'est vrai parce que
il est quand même plus musclé.
Le design qu'on avait vu, c'était juste horrible, quoi.
C'était un mannequin, quoi. C'était mannequin Lobo.
Il passe de taille Hulk à taille Spider-Man, quoi. Donc forcément, c'est pas crédible. Bon, bref, on va passer aux notes parce que je crois qu'il y a plus grand chose à dire là-dessus.
Check it, moi, pour moi, et j'espère qu'il y aura une suite là-dessus.
Alors, en ce qui me concerne, ce sera plutôt Check It à tendance passe.
Ouais, pareil, Check It moins pour moi.
Moi, c'est un petit Check It aussi, je l'ai lu, mais c'est Check It, c'est sympa.
Tu l'avais lu, je le vois pas noté sur le conducteur.
Si.
Qu'il est noté à Lobo et pas à Justice League.
Pardon,
c'est pour ça.
J'avais oublié.
Tu fais mal ton travail.
Non, c'est sympa quand même. On sent que c'est quand même une belle ordure. Hein. Il y a une scène notamment qui est plutôt sympa à ce niveau-là. C'est bien écrit. Enfin, Marguerite Bennett, je trouve qu'elle se débrouille bien au niveau du script.
Moi j'ai trouvé que c'était un peu faible au niveau caractérisation du personnage, enfin.
Oui,
on s'ennuie un peu, ce n'est pas le Lobo de Simon Beasley et Alan Grant, quoi.
Ah, c'est sûr, c'est pas la même chose.
C'est clair.
Dernière chose que je voulais ajouter sur ça, c'est quand même la seule bonne trouvaille, c'est qu'on nous fait croire, parce qu'il est à la recherche d'informations tout le long, et on nous fait croire que les informations qu'il va trouver vont changer sa vie. On s'attend forcément au dauphin classique. Et justement, c'est pas ça. C'était peut-être le seul bon twist intéressant de l'épisode, je trouve. Bon, après, ce que c'était, moi. Mais... Donc, tu as dit, Flo, toi ?
Check it.
On passe à la suite, c'est le Aquaman 23.1, Black Manta, Sam.
Oui, scénarisé par Jeff Jones et Tony Bedard.
Pas bien.
Avec des dialogues de Tony Bedard et dessiné par Claude Saint-Aubin.
Je tiens à saluer Sam d'emblée pour son objectivité aussi.
Tu peux faire Burke aussi, hein, pour les dessins, Sam. Hein.
Pardon ?
Tu peux faire Burke aussi pour les dessins, hein. C'était pas terrible.
Non, ça va. Le style est pas trop adapté à Black Manta. Voilà. Surtout quand tu passes de Ivan Reis à ça, ça fait un peu mal.
Oui, mais c'est un numéro fill-in, donc bon, après tout, c'est normal que ce soit pas dessiné par Ivan Reis, quoi. Ça ne dérange pas.
Tu l'as dit, c'est du fill-in. Du fill-in à mort, qui est très lié à Forever Evil, que je ne lis pas, donc franchement, les événements qui se passent dedans, je m'en tape. Donc en gros, c'est Black Manta qui est en tôle après les événements qu'on a vus dans le deuxième arc d'Aquaman, qui, en raison des événements de Forever Evil, est libéré et va aller pleurnicher sur la tombe de son papa. Voilà, fin de l'épisode, c'était super simple.
Ouais.
Bah, c'est pas terrible, hein.
Moi perso, j'ai trouvé ça hyper pourri. C'est mon gros pass de la semaine. J'ai trouvé ça nul.
Idem.
Déjà, moi j'ai lu Forever Evil, donc on se tape la moitié des dialogues de Forever Evil vu sur un autre angle. Donc c'est vraiment hyper. Enfin, il s'est pas fait chier, quoi, pour les dialogues. Et alors, il y a des scènes, moi, qui m'ont fait mourir de rire tellement c'était ridicule, comme l'évasion de la prison et puis la pièce où il y a tous les objets personnels des super vilains où t'as toutes leurs armes et tout qui sont rangées
qui attendent juste d'être prises.
C'est ridicule, enfin c'était ridicule, et voilà,
c'est une ressuscité de la Black Room, en fait, quoi.
Ouais, mais alors là, c'est dans la prison directement, quoi. Vas-y,
mais
quoi,
directement
c'est...
dans la prison et à 50 mètres des cellules, hein. Attention.
Oui, ouais, mais ouais. C'est tout à fait logique, de toute façon.
Non, non, mais ça, c'était ridicule. voilà, après, moi, j'ai pas trop aimé non plus les dessins. Ce qui se passe, c'est un rapport avec la fin de Forever Evil et ce que fait Ultraman. Moi, j'ai trouvé ça ridicule déjà dans Forever Evil et là, ça continue, c'est aussi ridicule. Donc, moi, j'ai franchement, c'est un gros pass pour moi, celui-là.
Sam?
Gros pass.
Ben voilà, deux passes. Vous savez quoi acheter cette semaine? Foncez, le Black Manta, c'est la meilleure lecture de la semaine.
Ce qui est vraiment dommage au vu du potentiel du perso.
Moi, de toute façon, je l'ai feuilleté rapidement là pendant que vous en parliez. C'est juste pour nous amener les événements qui nous avaient été annoncés dans les sollicitations, quoi. Ça sert juste à ça, quoi.
Non, même pas.
La suite, c'est Detective Comics 23.2, Harley Quinn, et c'est Flo qui va nous en parler. Est-ce que ça nous présente cette nouvelle série?
Alors, c'est non, pas du tout. Ça nous présente, c'est un prélude comme avec le Deadshot écrit par le même Matt Kint, un prélude à Suicide Squad, le début de son run qui commence le mois prochain. Donc, c'est écrit par Matt Kint et dessiné par Neil Gudge. Alors, un mot sur les dessins, je connais pas ce dessinateur, mais c'est super beau, je trouve. Vraiment, dessin au top, je trouve. Vraiment, c'est super. C'est un petit peu cartoony. C'est vraiment très très sympa. Je vous conseille. Rien que pour les dessins.
Le même avis côté dessin, Benny.
Oui. Bah écoute, moi ça m'a pas du tout. Enfin, j'ai trouvé ça entre guillemets. Je sais bien que c'est un mot un peu con, mais normal quoi. J'ai rien vu d'extraordinaire. J'ai pas été bluffé. Ouais, générique.
Oh non, c'est un peu cartoony et tout. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Bon bref.
Ouais, ça va bien.
Je trouve qu'il y en a plein. Je trouve qu'il y en a plein des comme ça, au fait, des dessinateurs qui ont ce style. Et,
bon. Je feuillette là rapidement, moi je suis vraiment pas fan, hein, par contre. C'est un cartoony assez anguleux et. J'aime pas trop.
C'est moi qui suis.
Non, mais justement, les goûts et les couleurs de chacun, hein. Mais justement, c'est très bien qu'il y ait des avis différents, ça permet aussi aux auditeurs de se positionner, quoi.
Est-ce que ça te faisait pas penser à celui qui fait. Albuquerque, tiens.
Oh bah non.
Non, pas du tout.
Non.
Ça n'a rien à voir avec Albuquerque.
Pour l'histoire, bah ça raconte un petit peu les origines de d'Harley Quinn, hein, tout simplement, de son enfance jusqu'à son arrivée à l'asile d'Arkham en tant que psy, et ensuite on va voir un petit peu sa transformation à Harley Quinn, et on va arriver jusqu'au moment de Forever Evil, tout simplement jusqu'au présent. L'origine est plutôt sympatoche. La relation avec le Joker est totalement nulle. Enfin, la manière dont on dit elle tombe amoureuse du Joker, c'est nul, clairement. C'est passé en deux pages, c'est pourri. C'est vraiment pourri.
New 52. Je devrais ajouter un jingle comme
c'est,
ça.
C'est pourri, mais en même temps, c'est difficile à expliquer. C'est un personnage qui a un background
un peu. Kint aussi, hein.
C'est un personnage qui a un background un peu merde, un peu de merde, quoi. Enfin, c'est pas un personnage. Tu peux pas écrire des masses de trucs dessus, quoi, non plus. C'est un peu un personnage un peu anarchiste, mais au niveau de ses origines, c'est.
Ouais, mais Flo, c'est la faute à Matt Kint. Il fait n'importe quoi. Ce mec, il arrive sur Suicide Squad. Il a même pas lu les premiers numéros de Suicide Squad. Il y a déjà eu deux numéros complets sur comment elle est devenue Harley Quinn et comment elle a rencontré le Joker. C'est pas du tout la même chose que ce qu'il racontait dedans. Donc déjà, moi, j'ai trouvé ça tout pourri.
C'est ce que je me suis demandé, mais j'ai pas lu les Suicide Squad, mais il me semblait avoir, dans mes souvenirs, avoir lu qu'il y avait des numéros sur les origines d'Harley Quinn.
C'était développé sur deux épisodes plutôt bien fait, et après, ça continuait justement avec Death of the Family. Mais là, vraiment, moi, ça m'a vachement choqué. Moi qui adore Suicide Squad, qu'ils aient changé, en fait, le truc... Voilà, alors que le mec arrive sur Suicide Squad, et donc ça m'a vachement déçu. Et
la question, c'est a-t-il vraiment les coudées franches pour écrire son scénario et écrire les origines de Harley Quinn, qui est intrinsèquement lié au Joker, puisque le Joker s'est chasse gardé de Scott Snyder.
Ouais, mais au moins, enfin quand je veux dire, il y a déjà eu ça a déjà été raconté dans les New 52, au moins rester cohérent avec ce qui a déjà été raconté.
Ah bah ça, oui, bien sûr, mais est-ce qu'on l'a pas un peu bridé en disant non, tu fais pas comme ça, oriente ton récit autrement, quoi.
Ouais.
Là concrètement, ses origines, c'est aussi qu'elle ait changé. Comme le Joker, enfin, elle est défigurée, quoi. Alors, je sais pas si c'était comme ça déjà dans les New 52 ou.
Ça, c'est nouveau.
Avant les New 52, en tout cas, c'était pas comme ça.
Ouais, non, ça, c'est nouveau.
Ça va être pratique pour une série Harley Quinn qui va démarrer en novembre.
Ça va être le bordel. C'est un humour qui m'a beaucoup déçu. J'en attendais beaucoup. Le graphiquement, c'est pas mal. Mais j'ai trouvé que déjà, c'était pas respectueux de pas suivre ce qui avait déjà été fait avant. Dans les New 52, et en plus j'ai trouvé que le titre jonglait entre l'humour et les choses hyper graves, hyper trash, de façon vraiment malhabile, et j'ai détesté la fin et la tournure que prenait le comics, et j'ai un peu peur pour ce que va faire Matt Kint sur Suicide Squad.
Bah, comme tu es le seul à le lire en même temps.
Ah, moi, la fin, la fin, ça, non, la fin, ça va. Moi, enfin, j'ai pas, ça a pas
la
choqué.
La fin, ça va dans le, enfin, je veux dire, elle fait presque pire que la plupart des super vilains de DC, quoi. Pour un personnage qui plutôt est dans l'humour et dans le slapstick.
Ouais, mais c'est, là, c'est le côté, c'est le folie, côté anarchiste, quoi, et un peu schizo, quoi, que.
Ouais, mais là, c'est un peu
juste
un
des
peu
centaines
extrême.
D'enfants, c'est pas grave.
Ouais.
Ouais, oui, non, oui, c'est
extrême, quoi.
Oui, c'est très extrême, ouais.
Et ça m'a vachement choqué, sachant qu'après, justement, elle aura un titre à elle qui a l'air d'être plus sur le ton de l'humour. Ça fait un peu bizarre.
Qu'en as-tu pensé, toi, Benny?
Je peux pas dire que ce soit bien écrit. C'est un peu brouillon, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est vachement gadget. J'ai l'impression, d'ailleurs, que ce mois-ci, on va avoir quasiment que des épisodes gadget, des bons gros fill-ins, et puis que certains qui rempliront vraiment le rôle de vrais... comment dire, épisode qui continue les choses à travers Forever Evil. Parce que là, rien n'évolue hein, avec cet épisode-là. Clairement, c'est un épisode qu'on peut zapper. Enfin, je veux dire, il sert à rien.
Mais c'est le problème du Villain Mons. De toute façon, baser un numéro que sur un vilain, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de le soutenir, en fait, sur tout un numéro. Il te faut le héros, parce que c'est justement le héros qui apporte le vilain.
C'est l'opposition qui nourrit...
Exactement.
S'il n'y a pas de conflit, ça sert à rien.
Le vilain apporte au héros et le héros apporte au vilain aussi et ils se complètent l'un l'autre. On y reviendra de toute façon sur d'autres titres hein, tout à l'heure dont on va parler.
Ouais.
Sauf quand on fait des numéros origines.
Ouais, et même encore comme ça dépend. Si tu vois pas si tu vois le héros passer dans les origines, ouais, pourquoi pas, mais après.
Et bon... même là, tu peux pas le faire 50 origines. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est fait.
C'est clair. Vous aviez un mot à rajouter peut-être sur ce Detective Comics 23.2? Une information supplémentaire peut-être
avant de passer
à la suite.
Pas.
Eh bien, passons à vos notes alors.
Moi, check it.
Un passe.
Pour les dessins.
D'accord, bon,
alors,
on passe, ouais. Benny.
Je sais plus ce que j'avais dit, mais je pense que je
check
vais mettre un passe.
Je crois. Tu avais mis entre check it moi ou passe sur le conducteur.
Ouais, bon, là, ça va être un passe.
Allez, on continue avec Flash 23.2, Reverse Flash, Benny.
Oui, alors là par contre, justement, c'est l'un des titres du Villains Month qui est écrit par les auteurs originaux de la série actuelle, donc Francis Manapul et Brian Buccellato. Par contre au dessin, c'est Scott Hepburn, qui est pas mauvais, hein, de toute façon, qui fait bien le travail. Brian Buccellato est toujours coloriste. Et alors forcément, c'est sur River Flash. Sauf que là, on te raconte vraiment... ses origines et puis surtout son enfance, qu'est-ce qu'il a changé, qu'est-ce qu'il a traumatisé. Alors bien sûr il a le gros père bâtard comme d'habitude hein. Mais c'est bien écrit et d'ailleurs j'ai été étonné puisque c'est pas une série que je suis énormément Flash, j'ai beaucoup de retard sur cette série et les premiers épisodes m'avaient pas passionné et là apparemment c'est très très bien écrit quoi, c'est très correct. Donc ça m'a donné envie de reprendre le titre et de le relire du début, chose que je ferai forcément puisque de toute façon l'équipe actuelle va se barrer au numéro 25.
Oui, malheureusement. Oui, ça a été annoncé juste après l'enregistrement du Weekly News. On était contents
voilà,
encore.
Les petits bâtards.
Voilà, on y reviendra sans doute, mais en annonçant la nouvelle équipe. Mais par contre, donc du coup suspense. Si vous ne savez pas qui est la nouvelle équipe, attendez de le savoir. Mardi.
Bah écoutez, oui, écoutez l'émission de mardi. Ouh.
Voilà, tout simplement. N'allez pas voir sur internet, ça sert à rien. C'est tellement plus sympa de l'entendre dit par nous. Voilà. Et sinon, l'épisode est vraiment très bon et rentre bien, au fait, dans la continuité de ce qui est fait sur la série. C'est-à-dire, c'est pas un fill-in tout bête, quoi.
Ça a l'air utile, quoi.
Actuel.
Ça a l'air utile.
Bah, oui. De toute façon, le Reverse Flash venait d'être introduit dans l'arc précédent, donc si on a les origines dès maintenant, c'est pas plus mal, quoi.
Oui, mais là, la fin, en fait, si tu veux, de ce numéro, la suite directement de la fin de ce numéro est dans la suite de la série. C'est, je veux dire, il n'y a pas de rupture. Ça s'intègre vraiment, cette histoire, dans la série Flash.
Ça a l'air beaucoup mieux que le Gorilla Grodd de la semaine dernière, du coup.
Ah bah, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Et non, franchement, très bon numéro. Et autour de ce Reverse Flash qui est, rappelons-le, très différent du Reverse Flash de l'avant New 52 aussi.
Oui, bah c'est plus le même, hein, c'est un nouveau de toute façon.
Oui, exactement, c'est plus le même. Alors, est-il utile de dire qui c'est? De toute façon, ceux qui le savent pas, comme ça, auront peut-être la surprise.
Oui, bah allez, découvrez-le.
Oui, voilà. Mais très bon numéro. Pour moi, c'est un bon bail ça le mérite amplement. Et là, pour une fois, c'est pas un épisode gadget, quoi.
Ok, on va passer à la suite. On va revenir sur du Batman avec le Batman 23.2. C'est Riddler. C'est écrit par Scott Snyder et Ray Fawkes avec des dessins de Jeremy Owen. Et donc, bah, bien sûr, comme je l'ai dit, ça va se centrer sur le personnage du Riddler. Et ça se passe pendant les événements de Forever Evil, ça se passe dans le présent. Ce qui est la chose à savoir. Et je me suis fait absolument chier dans cet épisode. Voilà, je vais être clair. Le Riddler va faire une petite vengeance et va s'infiltrer dans la Tour Wayne, chose qu'on avait vue hein, dans le début de Zero Year. Il était employé dans la Tour Wayne, mais on comprend qu'il a été viré, on le sait même, ça avait été dit dans les derniers épisodes. Et donc là, il va s'introduire, il connaît tout leur système de sécurité et va essayer de se venger.
Qui n'ont pas changé en 4 ans.
Non, bien sûr. Et bon, la raison de pourquoi il va se venger, je vous la laisse découvrir dans l'épisode, mais... franchement, j'ai trouvé ça petit. Un épisode complet sur le Riddler, ça revient à ce que je disais juste avant, un épisode complet sur le Riddler, c'est chiant.
Ouais. T'as dit surtout qui, que là, qui était au scénario et dessin,
je sais. Oui, Scott Snyder et Jerry Fawkes.
D'accord.
Surtout que c'est extrêmement verbeux.
Oh là là.
Oh putain, j'en voyais pas le bout, ce qui fait que personnellement, j'ai zappé le dialogue de... Enfin, même pas des dialogues, des textes.
Ouais,
en
les monologues intérieurs de...
Pages. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on s'en fout.
Les monologues intérieurs de Riddler sont vraiment longs. En fait, Riddler prend de l'intérêt quand il est opposé à Batman, que Batman essaye de découvrir son plan.
Et lui-même, et d'ailleurs, c'est quasiment la conclusion de l'épisode, je veux affronter Batman.
Mais oui, voilà. C'est ça.
Mais nous aussi, parce que tout seul, t'es chiant, mon grand.
Moi, je persiste à dire que ce qui avait été amorcé vers la fin de l'ancien univers avec un Riddler qui retournait sa veste et qui essayait de travailler dans le camp des gentils était beaucoup plus intéressant que ça.
Oui, qui était une idée de Paul Dini.
Eh oui, encore une fois. Quelqu'un d'autre l'avait lu, ce Batman 23.2?
Oui.
Bah oui, moi.
Non, mais autre que nous deux.
Oui, j'ai pas du tout le même avis.
Est-ce que l'avis de quelqu'un d'autre que nous deux compte?
T'as pas le même avis. Toi, tu penses que c'est un très bon épisode, hein, vu ta note. On la gardera pour la fin. Vas-y, Flo.
Bah, j'ai, en fait, j'ai trouvé le Riddler pas du tout ridicule en termes de caractérisation. J'ai trouvé bien caractérisé. Il a pas beaucoup de challenge, il rentre dans la tour Wayne vraiment facilement. Donc on voit un peu à quel point il est intelligent, puissant. J'ai trouvé ça bien écrit. Pourtant souvent Ray Fawkes, il a tendance au niveau de la narration à pas être très très fluide. Et là j'ai trouvé que c'était correct quoi.
À nous répéter 5-6 fois ces énigmes, moi j'ai pas trouvé ça très fluide perso. Mais...
Honnêtement, ça m'a pas choqué. Moi j'ai été séduit parce que j'ai trouvé le Riddler intelligent avec ses énigmes et tout. Enfin, ça m'a séduit quoi. Un numéro entier sur le Riddler qui se tenait du début à la fin, j'ai trouvé. C'est une bonne aventure en one shot, un truc consistant, je trouvais, pour un numéro seul.
En fait, pour moi, vraiment, le sentiment que j'ai, c'est que ça aurait bien fonctionné, mais en backup. Donc en 8 pages, quoi. Pas en 20. Voilà. Pour moi, c'était vraiment trop long et ça se répétait trop. En revanche, c'est vrai, ce qu'on peut noter, la différence du Riddler, c'est que là, on a un Riddler qui est quand même vraiment beaucoup plus violent que les précédentes incarnations.
Il est violent et intelligent. Il avait pas de consistance au départ. Enfin, je connaissais assez peu. Et là, je trouve qu'il a de la consistance en tant que personnage. Voilà. J'ai hâte de le voir dans Zero Year. C'était le but du numéro. C'était rendez-vous Zero Year, Batman numéro 25. J'ai trouvé ça efficace à ce niveau-là. Quoi.
Ben encore une fois, c'est peut-être même l'éternel débat qui recommence. C'est-à-dire, est-ce qu'on apprécie pas plus le New 52? Est-ce qu'on apprécie pas plus tout ça quand on connaît pas ce qui s'est passé avant? J'ai l'impression que c'est un peu ça en fait, c'est vraiment l'éternel débat qui revient. Est-ce que notre passé de vieux lecteur, à Sam et à moi par exemple, nous empêche pas d'apprécier l'histoire pour ce qu'elle est, tout simplement?
Je sais pas, mais Riddler a pas tellement changé par contre. Enfin, c'est un peu toujours le même personnage.
Ah, il est... Je le trouve un peu plus retors quand même. Plus...
Il est moins clownesque, enfin, j'avais lu 2-3 petits trucs de lui, enfin, je le trouve bien traité dedans, enfin je sais pas. Bon bref, moi j'ai trouvé bien traité.
Donc, on va passer aux notes. Flo.
Passe.
Ah bah, ça me passe, d'accord.
C'est un bon petit bail, c'est un one shot, bien.
Pour moi, c'est un check it, moi. C'est vraiment si vous avez pas grand chose à acheter cette semaine, quoi. Voilà. On passe à la suite. On va chez Superman maintenant avec le Action Comics 23.2 Zod. Sam.
Oui, écrit par Greg Pak et dessiné par Ken Lashley. Ken Lashley qu'on avait plus vu depuis un moment. Greg Pak, donc, qui va bientôt être le nouveau scénariste d'Action Comics, donc à surveiller, je dirais, l'épisode, puisque je dirais ça,
ça annonce des choses pour le titre, forcément.
Ah bah il l'avait dit, hein, clairement c'est le départ de son run dans cet épisode.
Voilà. Et un bon départ, moi je trouve, contrairement à l'épisode de la semaine dernière sur Darkseid, qui était pas terrible, faut quand même le dire, la réinterprétation des origines, voilà, moi je préfère Kirby là-dessus, hein, parce que là c'était vraiment basique. On revient sur les origines d'Ozod, et on revient vraiment sur les premières années du personnage, quand il était enfant, puis quand il est adulte, et son coup d'état pour reprendre le contrôle de Krypton. Puisque là, il essaye de faire quand même quelque chose d'assez connecté à ce qu'avait fait Lobdell sur Superman, en montrant qu'une Krypton dominée par la caste scientifique et où les choses militaires sont vraiment regardées avec dédain et comme une chose du passé. Donc, Zod veut ramener ça, et la conclusion, c'est « Zod est un monstre ». Voilà. Merci, c'était sympa. Alors, malgré mon ton assez dédaigneux, j'ai assez apprécié l'épisode, qui était une bonne surprise, parce que finalement, les origines, vraiment, l'enfance de Zod, on l'avait plus vu depuis, bon, on l'avait même quasiment jamais vu, je pense. Greg Pak lui confère une qualité assez sauvage, je trouve, donc ça donne un côté assez badass au personnage, et la manière dont il essaye de prendre le contrôle de Krypton est un petit peu plus inspiré que ce qu'on avait vu par le passé. Mais un personnage qui est assez différent de la manière dont Geoff Johns l'avait dépeint dans le pré-New 52, puisqu'il essayait d'en faire une espèce de militaire d'honneur qui essayait de sauver Kandor, par exemple. Donc il y avait quand même une certaine noblesse dans le personnage, même si c'était un connard de première.
Avec des techniques d'enfoiré, mais voilà.
Voilà, mais il y avait quand même quelque chose. Pour son peuple, il était quand même prêt à tout.
Flo, tu l'as lu aussi ?
Oui, bah j'ai un peu le même avis que Sam. C'est vrai que c'est assez séduisant, ses origines. J'ai trouvé ça assez classique, bonne consistance du personnage. Greg Pak fait du bon taf pour nous donner de l'épaisseur à Zod et nous donner envie de plonger dans Action Comics. Non, j'ai vraiment pas grand-chose de plus à rajouter que ce qu'a dit Sam. J'ai trouvé ça vraiment efficace, sympa, vraiment sympa.
D'accord.
Donc, sauf que Sam, quand il met un truc, il dit que c'est de la merde d'abord, et puis ensuite il dit, oh non, mais au fait, j'ai bien aimé. Pour son anif, quand tu lui offres un vélo, il fait, oh non, mais c'est de la merde ton vélo, mais au fait, il aime bien, quoi.
Donc, pour la note, pour moi, ça sera un check it à tendance buy.
Bah, c'était juste un check it pour moi, mais finalement, en refeuilletant, c'est, ouais, entre pareil, comme Sam. Entre plutôt buy, presque buy, quasiment.
Buy,
ouais,
d'accord.
Bon buy, ouais.
Et donc, comme on y a tous pensé, je vais quand même la faire. Il a donné de l'épaisseur aux Zod. Voilà, c'est fait.
Bravo.
Tout le monde y a pensé quand tu l'as dit, Flo, j'en suis sûr. Hein, Bruno, Benny, je suis sûr que vous y avez pensé.
Non, même pas. Moi, je pensais à Jim Zod. Par contre, il était très présent dans cette review dans ma tête.
Oui, allez, on termine notre partie d'essai avec le Batman et Robin 23.2 Court of Owls. C'est donc bien sûr un épisode de Talon inséré dans la série Batman et Robin parce que ça en a plus. C'est écrit par James Tynion IV avec des dessins de Jorge Lucas. J'espère que ça se prononce comme ça.
Oui, je dis Jorge Lucas, mais c'est pas grave.
Oui, bah, j'essaie de le prononcer à l'espagnol parce que je pense que c'est quelqu'un de tendance hispanique, mais je ne suis pas sûr.
Et que Sam ne va pas du tout le prononcer à l'espagnol, donc ne le prononcez pas comme ça.
C'est pas grave, mais non, mais vu qu'il nous écoute, il va pouvoir nous corriger.
oui, bah oui, peut-être, oui. Alors, c'est un épisode qui se passe, là encore une fois, dans le présent, enfin, la partie principale, puisqu'on assiste à énormément de flashbacks, mais le Court of Owls va devoir réagir à la montée en puissance du Crime Syndicate pendant les événements de Forever Evil. Et donc, on va avoir plein de petits flashbacks qui vont nous expliquer les différentes tactiques de la Court of Owls pour se sortir des situations épineuses qu'ils ont subies à travers l'histoire. Voilà, je crois que je peux pas le résumer plus. Et si, la dernière petite phrase, c'est quand même que ça va amener, pour les événements qui vont venir dans la suite de la série Talon, avec un énorme cliff à la fin qui
relance la série.
Voilà. Ouais.
Alors, Sam et Flo, vous l'avez lu aussi, je crois.
Ouais. Oui.
Bah, ça redresse bien la série parce que je trouvais que la fin de l'arc avec Bane était un peu. Voilà, ça manquait un peu de panache, hein, ça manquait un peu de consistance, on va dire. Surtout au niveau des dessins, le scénario était décevait un peu par rapport à ce qui était annoncé.
Tu parles du dernier, Talon 11, c'est ça ? Oui, j'ai lu juste avant le podcast également et c'est vrai que c'est quand même supérieur.
Voilà, on a annoncé du lourd et voilà, finalement ça fait un peu pchit, hein, quoi, la fin de l'arc. Et là, ça relance bien en revenant bien sur la Court of Owls et en montrant que ce sont de beaux grands enfoirés avec des gros moyens.
C'est surtout l'embrigadement de cette petite qui est terrible.
Ah ouais, ouais. C'est absolument génial.
Ouais, c'est tellement noir, c'est tellement crasse et pourtant c'est bien fait. Bah,
les dessins collent très très bien d'ailleurs à l'ambiance. Hein.
Ouais.
Vraiment crade, noir, très ancré. Ça colle très bien. C'est très très bien écrit, je trouve. Il y a un mélange, un genre de patchwork parce que il y a ce cliff qui relance la série Talon et il y a aussi le fait juste de découvrir quand même la Court of Owls et ça fait vraiment le boulot parce que je pense que un lecteur qui ne lit pas Talon en lisant ce numéro aura envie, je pense, de lire Talon parce que moi si je me suis mettais à la place de quelqu'un qui ne lisait pas Talon, ça m'aurait vraiment donné envie.
Talon, allez-y, parce que c'est bien.
Ouais, c'est
on
cool.
Revoit passer aussi certains personnages, hein, comme ce fameux Talon Harmon,
ouais,
qu'on avait déjà vu dans la série, et on le découvre, pas tant sous un nouveau jour que ça.
C'est toujours Jacques les Ventreurs. Hein, ouais.
L'espèce de gros psychopathe qu'il était, mais avec moins de contrôle, disons.
Voilà, oui.
Deux pages qui font bien froid dans le dos, quand même.
Ah, c'est clair, ouais.
C'est violent. Un très bon épisode, peut-être le meilleur chez DC que j'ai lu cette semaine, pour ma part.
Bah, moi c'est le meilleur du mois, donc
moi c'est
le mois, je vais pas m'avancer, il reste encore deux semaines, donc
non c'est le meilleur du mois. J'ai voyagé dans le futur, donc je peux te dire que c'est le meilleur.
Lu, il te dit que c'est le meilleur.
C'est même mon coup de cœur. J'avais pas de coup de cœur ce même, mais finalement celui-là est vraiment le plus solide. Et puis le côté, j'aime bien aimer le côté flashback
c'est bien géré. Passé,
c'est bien géré et justement on voit à quel point la Court of Owls c'est vraiment dangereuse à travers les âges et c'est vraiment cool, quoi. Donc
moi, les flashbacks avaient tendance à m'ennuyer au départ, mais c'est surtout cette fin avec cette réflexion que fait la petite gamine quand ils sont en train de monter, de descendre l'escalier plutôt. Ça prend tout son sens, ces flashbacks, et je trouve ça tellement horrible.
Ouais, c'est enfin, ça, bon. C'est vraiment bien mené.
Après tout, comme on dit, il y a toujours deux côtés à chaque histoire, hein, donc forcément. Bref, c'est un gros bail, hein, pour cet épisode.
Ouais, pareil. Donc, très bien.
Allez, on va passer maintenant à notre partie indé et on commence avec Bruno qui va nous parler d'une nouvelle série. Ça s'appelle Brain Boy et c'est chez, je ne sais plus, chez Dark Horse. Merci. Ouais.
Et c'est scénarisé par Fred Van Lente avec des dessins de Herb Silva qu'on a vu chez DC sur Superboy récemment. Ça nous raconte l'histoire de Matt Price qui est le plus grand télépathe du monde, qui a été qui a été élevé par une entreprise qui a justement utilisé ses dons pour pouvoir le former et tout et s'en servir plus tard. Et maintenant il bosse en fait en tant que asset pour le gouvernement et pour les services secrets américains puisqu'il est envoyé pour faire la protection de différentes personnes politiques qui viennent aux États-Unis et pour justement parfois sonder un petit peu ce à quoi il pense. C'est un titre que j'ai trouvé plutôt sympathique, plutôt frais, des dessins sympas de Herb Silva. J'aime bien son style. Il y a pas mal d'humour. Ce Brain Boy, en fait, il aime pas qu'on l'appelle comme ça d'ailleurs, mais c'est son surnom. Il est mêlé tout de suite à peut-être des manipulations un peu du côté de la CIA, des agents secrets. Là, il a envoyé pour aller surveiller un gars qui arrive pour une conférence de l'ONU, un dictateur, enfin, qui est soi-disant quelqu'un d'apprécié dans son pays, mais qui peut-être cache des secrets. C'est un titre que j'ai trouvé assez frais. Donc c'est un bon petit check-it. Il est à 3€, donc à feuilleter. En tout cas, c'est sympa. J'irai voir le deuxième.
Check-it seulement.
Ouais, check-it.
Ok. On va passer au coup de cœur de la semaine de Sam, c'est chez Image et ça s'appelle Prophète, numéro 39.
Oui, écrit par Brandon Graham et dessiné par 6 à 7 dessinateurs, donc comme on va faire vite, on va éviter de tous les citer. Alors là, c'est un épisode un peu spécial puisque centré sur le personnage de Die Hard, donc pour ceux qui connaissent la série Youngblood... non, là, c'est de la série Youngblood.
Mais bien sûr. Le mec, il a plus d'humour, il trouve même plus les vannes.
Non. Et donc c'était le robot dans la série Youngblood, ce qui explique qu'il puisse encore être en vie 10 000 ans dans le futur, puisque la série Prophète se passe 10 000 ans après la série Youngblood. Ce qui est plutôt marrant, c'est que l'épisode commence avec la mort de tous les Youngblood à travers les âges, donc en général une mort assez violente et alcoolisée parfois. On reconnaît bien les personnages de Rob Liefeld, et c'est 10 000 ans de la vie de Die Hard, tout simplement. C'est en 20 pages. Donc en gros, c'est l'anti-Mundis.
Mais Hickman, vous avez fait un épisode comme ça, je crois, avec La Chose aussi.
Qui était sur 4000 ans.
Oui, c'était sur 4000.
Qui était très bon aussi.
Il n'y a que 6000 ans d'écart, c'est pas énorme.
Voilà, ouais. Mais Vraiment, c'est un très très bon épisode. Hein. Vraiment, on voit les guerres auxquelles le prophète a participé, la manière dont il a voyagé à travers les étoiles, il a découvert de nouveaux systèmes. Enfin, ça n'arrête jamais, quoi. Toutes les 3 pages, tu as une nouvelle séquence qui commence. Et vraiment, cette série Prophète, une grande grande série extrêmement riche. Alors, faut s'accrocher parfois parce qu'il y a. Il y a plus d'idées dans une page que dans 20 épisodes des X-Men de Bendis, donc. Mais ça vaut le
Mégatrol.
coup. Oui, je sais, mais bon. Allez, c'est pour moi, c'est un ultra bail, c'est mon coup de cœur, c'est beau, c'est magnifique, c'est émouvant et c'est génial.
Si ça a fait verser une larme à Sam, ça veut dire que c'est
Oui.
quelque chose de très torturé. Hein.
Non, même pas. Même pas. C'est juste que c'est très bien fait, quoi. Il n'y a pas de défaut dans cette série.
Ok, on va passer à une nouvelle série encore une fois, cette fois-ci chez Valiant. C'est Flo qui va nous en parler, la sortie d'Eternal Warrior numéro 1.
Oui, Valiant fait son entrée dans les Comics Weekly, c'est la première review Valiant, je crois, de Comic
Ah non,
City.
pas du tout.
Non?
Pas du tout. On avait fait les premiers, les X-O Manowar, les Harbinger, tout ça.
Sérieux?
Quantum,
Ah ouais,
Bloodshot aussi.
Ah oui,
Ouais.
oui, merde, Quantum Amoudi. Putain, on a oublié. Pardon.
Jean. En fait, on les a fait tous, je crois.
Non, je crois
quasiment.
Pas.
Au moins une fois.
C'est vrai? Putain,
quasiment.
Je les ai effacés de ma mémoire.
Je crois que t'as fait Shadowman, Bunny.
Eternal Warrior, écrit par Greg Pak, encore une fois, et dessiné par Trevor Ersine. Alors, l'Eternal Warrior, c'est le frère de Armstrong de la série Archer and Armstrong, en fait. C'est Gilad Anipada. C'est un mec qui est immortel, comme Armstrong dans la série Archer and Armstrong. Donc il est devenu immortel il y a 6000 ans en ancienne Mésopotamie.
C'est des choses qui arrivent.
Dans le coin de Ur. Et en fait, depuis ce temps-là, il a un genre de rôle. En fait, il se fait dicter ses ordres par une secte de sorciers. Et il doit les protéger. C'est un guerrier en fait, et il a parcouru tous les champs de bataille de l'histoire en fait, quasiment. Et donc voilà, en fait c'est un personnage qui apparaît déjà dans la série Archer and Armstrong et qui a là droit à sa série. Donc je vous conseille la lecture de Archer and Armstrong, qui est une très bonne série, pour un petit peu le tâter. Et là, il apparaît également dans les derniers numéros d'Exo Manowar. C'est un numéro qui se passe principalement à l'époque en Mésopotamie, et c'est en gros une grosse 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 baston. Il y a beaucoup d'actions, et on a surtout la voix intérieure de lui, du Eternal Warrior, qui nous raconte un petit peu son rôle. Et voilà, je peux pas trop en raconter parce que c'est vraiment l'essence du personnage. C'est un peu particulier. En gros, ce mec-là a réussi aujourd'hui à se barrer, enfin à se libérer du joug de ses sorciers, et il mène sa vie tranquillou en Afrique. Il tue des lions et il bouffe des tigres dans une cabane.
Il a réussi sa vie quoi.
Dans une cabane dans la savane. Il a quand même 6000 ans, le mec. Hein. Donc il y a un fantôme du passé qui va revenir, qui va revenir dans le présent et qui va le remettre sur la route. Sur la route de la guerre et des combats. Et voilà, je peux pas trop en dire. C'est vrai que c'est un peu vague, mais c'est vachement bien. Il y a plein d'actions. Et en fait, mon avis est un peu biaisé parce que je connaissais déjà le personnage sur les autres séries Valiant. C'est pour ça que je peux que vous conseiller de lire les autres séries Valiant où il apparaît, parce que ça vous donnera certainement envie de lire Eternal Warrior. Voilà, ça me donne très très envie. En tout cas.
Eh bien, pour un concept similaire, ça a l'air quand même 100 fois plus passionnant que Pandora.
Ouais.
Mais tout ça paraît plus intéressant que Pandora.
J'aime bien foutre la merde comme ça. Donc, un gros bail, Flo.
Ouais, gros bail, gros bail. Lisez Archer and Armstrong. Vous en saurez plus sur le background du perso, presque plus que dans Eternal Warrior, d'ailleurs.
De toute façon, comme souvent, c'est un numéro 1. Il suffit de tester, puis on voit si on aime ou pas. Hein. Voilà, ça n'engage pas à grand-chose.
Ouais, et les dessins de Trevor Ersine sont plutôt sympas. Il rend très très bien l'action.
On va continuer avec un titre chez Boom maintenant, une mini-série qui démarre, ça s'appelle Sons of Anarchy numéro 1, et oui, ça porte le même nom que la série, puisque c'est tiré de la série télé. C'est écrit par Christopher Golden avec des dessins de Damian Kutsero. Et alors, je vais essayer d'éviter de faire trop de spoil, puisque
oui.
La diffusion française n'en est pas encore rendue là, mais ça se passe après la saison 6, j'ai l'impression.
D'ailleurs, j'avais
Alors,
commencé,
qui est
j'ai
mort,
lu les.
Qui est vivant?
J'ai lu les deux premières pages et j'ai fait oh merde! Faut pas
et
que
oui.
je regarde plus parce que
oui,
je me fais spoil.
Bah oui, donc,
j'en suis qu'à la 5. Et, donc,
pareil pour moi.
Voilà.
Mais oui, non, mais de toute façon, la diffusion française n'est pas encore arrivée à la saison 6, donc je vais être obligé de faire une review assez... ça va être assez délicat à résumer. On va se centrer principalement sur le personnage de Tig, qui a subi pas mal de choses pas bien. je peux pas révéler quoi, mais voilà, il n'est pas dans un bon état d'esprit, il s'en veut beaucoup, pour pas mal de raisons. Ont principalement des morts, hein. C'est pas du spoil que de le dire. De toute façon, on sait très bien que dans Sovereign Anarchy, il y a pas beaucoup de gens qui restent en vie. Voilà. Et du coup, ils vont aller se vider un petit peu la tête dans un bar et bah ils vont castagner un petit peu, quoi. Bah, c'est des bikers, hein, c'est normal. De l'autre côté, on a une fille qui se retrouve mêlée avec son copain à des histoires un peu louches. Elle décide de s'enfuir en lui explosant la face parce qu'il veut pas la laisser partir, et elle va chercher l'aide des Sons, puisque son père, qui est un personnage que je ne vais pas dévoiler puisque c'est un personnage de la saison 6 et voilà, lui avait dit: si un jour t'as un problème, va voir les Sons et demande Tig. Voilà grosso modo où ça en est. Moi j'ai trouvé ça super sympa, surtout si on est fan de la série. On a vraiment l'impression d'entendre les personnages parler, et voilà, on reconnaît les... Alors, au niveau des dessins, c'est assez moyen, c'est juste assez efficace pour ce qu'on puisse reconnaître les personnages, mais bon, disons que c'est pas les meilleurs dessins qu'on ait jamais vu, quoi.
Moi j'ai trouvé ça pas mal, hein, quand même. C'est surtout, j'ai bien aimé la colo. C'est quand même très correct pour de l'adaptation de série télé.
Ah oui, bien sûr.
C'est du haut niveau, quoi, je trouvais. Après, c'est vrai, les ressemblances des personnages sont peut-être pas idéales.
Bah, y a des pages où on les reconnaît, surtout, notamment, dû à des particularités faciales. Comme Jax, on reconnaît parce qu'il a la barbe. Chips, on le reconnaît avec sa cicatrice et sa moustache. Enfin, voilà. On les reconnaît plus par des petits accessoires que par la véritable ressemblance au visage de l'acteur. Mais bon, ça fait le job, on n'est jamais vraiment trop perdu, donc ça c'est plutôt cool. Et vraiment, si vous aimez la série, moi je vous encourage à lire cette mini, de toute façon c'est qu'une mini en 6, voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc,
moi je dirais même que ça fait le Steve.
Ah, ça fait le Steve. Ah oui, oh putain.
Putain, pas mal.
Ok, j'y étais pas. Donc un bail, et on va continuer avec toi, Benny, sur cette superbe intervention vanneuse, avec la sortie du Walking Dead numéro 114, je crois.
Et oui, alors Walking Dead 114, bah, on va pas changer comme d'habitude, hein, Robert Kirkman, Charlie Adlard, et comme d'habitude, bah, pour moi c'est la série que je lis en premier quand ça sort, et à chaque fois je me dis oh putain qu'est-ce que c'est bon, et bah voilà. Il y a plusieurs mois, il y avait eu une petite baisse, j'avais un petit peu gueulé là-dessus autour de l'épisode 100, et là donc ils étaient au fond du trou. La situation était vraiment devenue terrible pour Rick et tous ses proches. On pensait que certains allaient y passer. Quelqu'un d'ailleurs a fait une grosse chute, mais je vais pas dire qui, et je vais pas dire s'il en a réchappé ou pas. Mais voilà, là c'est encore une fois un retournement de situation. Kirkman joue vraiment les montagnes russes avec cette série, et c'est toujours très très bon. Et on arrive à la fameuse guerre des je sais pas comment ils l'ont appelé d'ailleurs, la guerre des cités ou je ne sais quoi. On avait vu ça dans les sollicitations,
je me rappelle plus, ou un truc comme ça.
Ouais, peut-être que c'est ça, tout simplement. En tout cas, voilà, ça va péter, ça va être un event, et rappelons que Walking Dead du coup va sortir deux fois par mois très bientôt. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ce sera toujours Adlard du coup au dessin sur tous les numéros, ou s'il va pas y avoir enfin quelqu'un qui va faire des fill-ins, un dessinateur fill-in, je ne sais plus.
Il y aura un dessinateur fill-in.
Ah ouais,
mais j'ai pas
voilà.
Mais je crois, oui, il me semble.
Ah,
hein.
D'accord. C'est étonnant.
Il me semble que ça avait été annoncé. Mais alors là, je sais pas.
Ok. Ben, en tout cas, voilà, c'est très bien, et j'ai hâte de voir cet event de Walking Dead, et voilà. Donc un méga bail, c'est mon coup de cœur. Et...
Bah comme à chaque fois, j'ai envie de dire.
Bah ouais, à chaque fois qu'il y a Walking Dead, voilà, c'est...
Ok, eh bien on va passer à notre dernier review indé de la semaine. Encore un numéro 1, c'est Mars Attacks, Judge Dredd, et c'est Bruno qui nous en parle.
Ouais, c'est écrit par Al Ewing, avec des dessins de John McRae. Et donc c'est la rencontre entre les deux univers de Judge Dredd et de Mars Attacks. Donc ça se passe à Mega City One avec la pègre en fait qui commence à contrôler de plus en plus de quartiers. Et donc Judge Dredd est appelé pour aller enquêter sur place, un peu s'infiltrer justement dans la ville. Et en fait on va découvrir qu'il y a un gars de la pègre, un mec qui a tout le temps son doigt dans le nez, qui est en train de contrôler tout le monde et de buter un peu tous les autres gangs de Mega City One. Mais tout ça grâce à l'aide d'une sorte d'enforcer un petit peu bizarre et un petit peu puissant, un alien. Donc un alien de Mars Attack, bien sûr. Donc c'est très déconnant, c'est plutôt bien écrit. Oh, c'est déconnant quand même. C'est amusant, ils ont bien mélangé les deux univers dans le sens où, par exemple, il y a des gros clins d'œil aux cartes Tops de Mars Attack, puisqu'il y a des scènes en fait qui sont racontées à travers de cartes, des cartes à jouer, cartes à collectionner, pardon. Moi, j'ai bien envie de savoir comment les aliens de Mars Attack sont arrivés sur l'univers de Judge Dredd et quel est leur plan, même si on a quelques petits indices. C'est une mini-série en 4, John McRae au dessin, c'est plutôt cool. Voilà, moi j'ai trouvé ça sympathique. Je sais pas ce que t'en as pensé, Benny.
Bah justement, j'ai été très déçu parce que déconnant, pas tant que ça. Je m'attendais à beaucoup plus de déconne. Enfin ça, il y avait vraiment l'opportunité de faire un truc totalement. Enfin ça aurait pu tourner vers du grand n'importe quoi. Judge Dredd contre Mars Attack. Et là, bon, bah c'est pas plus déconnant que certains épisodes de Judge Dredd qui ne sont pas des crossovers entre interfranchises. Donc je trouvais ça un petit peu dommage. Et puis aussi, il faut avoir un super niveau d'anglais pour lire ça, parce que il y a plein d'argot, il y a des mots qu'on ne lit jamais nulle part. C'est compliqué. Hein. Faut vraiment avoir un bon niveau, je trouve, pour aborder ce comic. Voilà, ce sera pas non plus compréhensible pour tout le monde.
C'est bien de préciser aussi.
C'est pas du Bendy sur Avengers, quoi. C'est
ah
pas,
non, oui, c'est pas du Bendy.
Qu'est-ce qu'il prend dans la gueule aujourd'hui, dis donc, Bendy.
On en a
plus
pas parlé
d'habitude.
Encore.
Ah si si, ça m'a fait plein de réflexions sur Bendy déjà depuis tout à l'heure, donc.
je l'écoute même plus. En plus le pire c'est que je suis sérieux, c'est même pas une blague, je les ai même pas entendus. Bon d'accord, bah peut-être.
Ouais,
je
devrais arrêter de lâcher depuis tout à l'heure.
Mais non, mais enfin bon, bref. Donc voilà, donc moi globalement assez déçu. J'espère que ça va un petit peu plus déconner justement dans les numéros à venir. Parce que bon voilà, c'est pas génial quoi. Donc moi ce sera juste un check-it, c'est sympa mais sans plus, c'est assez anecdotique.
Moi c'est un bon check-it et Ali Wing pas trop mal je trouve à l'écriture. Donc on verra ce qu'il donne sur Mighty Avengers.
Ouais, et ben justement, c'est très bien, très bonne transition. C'est exactement ce que j'allais faire de toute façon. On commence Marvel avec justement Ali Wing qui écrit un titre chez Marvel, nouvelle série. Ça s'appelle Mighty Avengers numéro 1 et au dessin, on va retrouver Greg Land. Bon, alors, c'est une équipe gérée par Luke Cage qui revient. Bon, de toute façon, ça avait été teasé dans les sollicitations, on le savait d'avance. Ça se passe en plein crossover Infinity où on a la fameuse Proxima, je ne sais plus quoi son nom.
On s'en fout.
Proxima Midnight, voilà. Qui, pour... Enfin, a demandé à Thanos d'annihiler New York, voilà. Pour s'amuser. Elle a envie
la
de tout péter
coquine.
À New York. Donc elle va débarquer sur Terre et faire une invasion. Pendant ce temps, on voit la nouvelle équipe Heroes for Hire de Luke Cage qui fait ça juste pour passer le temps à faire rentrer un peu d'argent puisqu'il a décidé d'aller élever son bébé et uniquement s'occuper de ça et ne plus s'occuper des Avengers. Il est en équipe avec le nouveau Power Man qui a aussi un pouvoir Iron Fist. Hein, rappelons-le, cette espèce de petit gamin qui avait été amené dans une mini-série justement Iron Fist et Power Man notamment.
Qui est très énervant. Hein.
Qui m'a fait rire quand même.
Ouais. Moi qui j'ai trouvé très énervant sur toute la vidéo.
Et puis White Tiger, transfuge d'Avengers Academy,
pendant
qui se retrouve
longtemps.
Là. Et donc, bon, ils vont tomber face à Superior Spider-Man. Une scène qui m'a fait bien marrer parce que c'est un gros connard et Power Man le bâche comme il peut, quoi. voilà. Bon, au niveau des dialogues, j'ai trouvé ça assez drôle. J'ai vu pire comme dialogue. J'ai vu des dialogues d'Anne Slott et c'était pire. ah oui, franchement.
Non, mais moi j'ai trouvé ça générique. Hein. C'est-à-dire que c'était pas mauvais, mais c'était pas spécialement bon.
C'est
donc,
drôle. Moi j'ai trouvé ça cool. Moi j'ai trouvé ça cool.
Non, moi j'ai pas trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça, voilà, ça coulait, donc ça allait, mais
avec des bons petits tacles au français.
Oui, mais justement, j'allais y venir. Ça, par contre, c'était le passage saoulant, j'ai trouvé. Puisqu'on va retrouver Monica Rambeau, qui, pour l'occasion, a changé de nom, qui s'appelle donc maintenant Spectrum.
Bon, voilà, on est à sixième nom, donc ça va.
Ce qui rime avec Rectum.
Oh, c'est facile, ça.
Bah oui, c'était facile.
Rappelle qui c'est, parce que moi, quand j'ai lu hier soir, il était tard, je me souvenais même plus qui c'était.
L'ancien Captain Marvel.
Ouais, l'ancien Captain Marvel. Tu sais, la Captain Marvel Black.
Ah d'accord, qui était facilement reconnaissable dans les Strange des années 90 avec sa grosse coupe afro, quoi.
Exactement, voilà. Ouais, elle faisait partie des Avengers pendant un temps. Bon, voilà, elle a encore changé de nom, quoi.
D'accord, ok, d'accord, c'est elle.
Bref, tout le monde a décidé d'abandonner Luke Cage parce que l'initiative Heroes for Hire, bah, ça les gonfle un peu et Luke Cage, ils le sentent pas à fond dedans. Et finalement, lui a décidé aussi de changer son fusil d'épaule et de remonter une équipe d'Avengers. Fallait bien. Ouais. Au bout d'un moment. Et c'est à ce moment-là que Proxima Midnight débarque dans New York et bah, tous ceux qui sont encore présents sur Terre, puisque rappelons que les Avengers sont partis dans l'espace bastonnés contre les builders, voilà. Et donc on a un personnage mystérieux qui était venu parler à Monica Rambeau, qu'on ne voit pas, et qui chope un costume au hasard dans cette espèce de boutique dans laquelle elle traîne avec ce français qui est insupportable à lire. C'est vraiment insupportable. Je veux dire, autant Gambit, ça reste correct, que là, là, c'est vraiment chiant, quoi.
Ah bah, il y a des aides partout, hein.
Oh là là. Ah, puis même, c'est désagréable. On te met des mots français et tout dedans, tout le temps. C'est vraiment désagréable.
C'est le cliché du styliste efféminé.
Ouais. C'est
français, quoi.
Et français,
ah, comment il s'appelle, Carminola, là? Je sais plus, le mec de la 6, là.
Je ne sais pas, je ne regarde pas la télé, moi. Non. Oh.
Bon. Tant pis, c'est pas grave.
Et donc voilà, il y a ce personnage mystérieux qui apparaît avec un costume de ce qu'il a trouvé.
Excellent, excellent.
Qui est assez drôle. Bon, je trouve que c'est un démarrage assez faiblard quand même. J'ai envie d'aller voir la suite quand même, mais ça traîne un peu en longueur pour démarrer pour un premier épisode. J'irai voir le 2, mais pour le moment, j'ai envie de dire, a encore des preuves à faire, quoi.
Beaucoup de preuves à faire.
Ouais, bah pour toi Sam c'est clair au moins.
Bruno, c'est pas mauvais, Benny. Mais ça n'a rien de particulièrement spécial, quoi. C'est pas le truc qui t'accroche ou qui t'assoit ou.
Bah oui, voilà, c'est ça le problème.
Voilà, c'est une série Avengers parmi d'autres et qui n'a rien qui n'a rien de particulier
que...
et qui justifie pas l'achat en particulier. Donc,
C'est pour ça que pour moi j'irai pas voir la suite parce que j'en ai ras le cul. Franchement, j'en ai ras le cul des séries où ils mettent Avengers alors que c'est même pas justifié. Là, c'est les Avengers, ils auraient pu s'appeler les Défenseurs, ils auraient pu s'appeler n'importe quoi, ça aurait été pareil. Ça ne sert pas du tout le scénario, c'est n'importe quoi, c'est juste au fait à la fin, ils sont ensemble, ils se trouvent face à un ennemi et ils décident de s'appeler les Vengeurs. C'est ça au fait le truc. Et j'en ai ras le cul que Marvel mette Avengers partout simplement pour vendre. Donc là, il y a aucune justification. Pour moi, c'est sans intérêt. Encore une série de plus. Encore, ça aurait été une mini-série. Justement, ça s'intercale dans les événements de
Infinity.
Pourquoi pas? Mais là, en plus, si c'est un titre régulier qui commence comme ça, je pense que de toute façon, ça durera 12 épisodes et puis on n'en parlera plus.
Oui, de toute façon, au pire, on verra ce qui va advenir de cette série au sortir d'Infinity. Est-ce qu'elle aura encore vraiment sa place? Déjà, c'est moins sûr.
Oui, puis de toute façon, enfin, il y a qu'à voir les membres, quoi. Superior Spider-Man aussi, il aura plus sa place bientôt. Dans quelques mois, ils vont nous remettre le vrai Peter Parker parce que le film arrivera, ils seront bien obligés de le faire. Enfin, je veux dire, c'est Marvel, franchement, c'est voilà.
Donc, Bruno, franchement, t'en as pensé quoi, toi ?
Bah, voilà. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis bien marré à l'écriture, enfin au niveau des dialogues, au niveau des situations aussi, il y a 2-3 choses sympas. Moi, j'aime bien le Superior Spider-Man, donc le voir dans ce titre. Ça va permettre de voir qu'est-ce qu'il va faire aussi pendant Infinity. Voilà, c'est cool. J'ai trouvé que ça vaut le coup de jeter un œil au moins au premier numéro.
En fait, franchement, c'est le genre de truc, ça vaudrait le coup si ça coûtait 1€. Voilà, point. Donc grand maximum. Mais j'en ai marre des comics à 4€ ou à c'est juste sympa et enfin voilà, non, faut se contenter d'un peu plus, quoi. Je veux dire, c'est... À force, c'est...
En termes de séries récentes Avengers, je trouve que c'est un meilleur démarrage que Avengers AI, par exemple.
Moi, je l'aime bien, Avengers AI. Pareil.
Moi, je le mets dans le même panier, j'irai ni voir la suite de l'un, ni voir la suite de l'autre.
Moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien Avengers AI. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, le titre fonctionne bien.
C'est sympathique. Graphiquement, c'est pas trop moche hein, pour du Greenland. Je l'ai connu pire.
Ouais.
Oui, c'est vrai qu'il a changé
plus statique, ouais. Là, on
a quand même une petite impression. En même temps, ça dépend des pages.
Ouais,
c'est
plus dessiné,
avec certains
hein.
personnages qu'avec d'autres.
Mais oui, voilà, c'est plus dessiné, on est moins dans le photoréalisme pur.
Mmh. Ouais, c'est bah, moins photoshopé aussi.
Là, personnellement, j'ai trouvé qu'il était plus à l'aise avec les personnages de Luke Cage et Monica Rambeau.
Ouais.
Et qu'avec les autres, ça...
Parce qu'il avait déjà
Spider-Man, ça allait bien. Spider-Man, voilà. ça allait bien, je trouve.
Moi aussi. Bah, parce qu'il est un masque, donc ça va.
Voilà. Mais non, ça va. Pas trop dégueulasse pour du Greg Land. Mmh.
Très bien. Alors, les notes. Bon, pour moi, c'est un check-it. Hein.
Ouais,
ça sera un check-it.
Je vous ai pas compris, vous avez un peu tous parlé en même
deux
temps.
Deux check-it. On a tous les deux des check-it.
Et Benny, j'ai pas entendu.
Bah, moi un pass, j'en ai ras le cul. Voilà. Donc, ce sera un pass. À partir de maintenant, toutes les séries comme ça, qui sont des fausses séries, Avengers, j'en ai ras le bol. Voilà.
Et quand Benny a ras le cul, attention, oui, ça chie.
Voilà.
Ça chie des carottes.
Eh bien, Sam, sur ce bon mot, tu vas garder la parole puisque tu vas nous parler de la suite d'Infinity au sommaire d'Avengers numéro 19.
Oui, toujours écrit par Jonathan Hickman et dessiné par Lenny Francis Yu, qui nous fait des dessins très particuliers dans cet épisode,
oh,
notamment
oui.
pour Carol Danvers et Ex Nihila, qui manifestement.
Elles sont sexy.
Je dirais que le dessinateur, ouais, il apprécie de les dessiner dans des poses particulièrement suggestives. On va le dire comme ça.
C'est chaud, c'est chaud.
C'était tellement classe.
Voilà, notamment avec Nina qui a l'air d'avoir un faible pour la poitrine de Carol Danvers. La touche dans tous les côtés.
Avec Nina qui fait du sang E au moins, hein, je pense.
Manifestement, oui.
Bah, qui fait une poitrine de super-héros, quoi. Enfin, voilà. Poitrine de comics.
Voilà. Donc en fait, j'évoque Carol Danvers, on retrouve en fait les Vengeurs qui s'étaient perdus dans un trou noir dans l'épisode précédent.
Donc en fait, excuse-moi, mais la transition était bizarre.
C'est vrai, j'ai pensé à la même chose.
Espèce de bande d'obsédés, va.
Comme j'ai pas lu les épisodes en question, ça m'a fait tout bizarre d'un seul coup d'entendre ça.
Alors évidemment, gros miracle, ils sont tous morts et ils sont tous au paradis. Non, ils ont réussi à s'évacuer au dernier moment.
J'avais envie de demander c'est dans quel trou noir qu'ils ont disparu, mais je n'irai pas jusque là.
Donc en fait ils ont tous réussi à s'évacuer.
C'est ah, compliqué d'évacuer dans ces moments là.
Bon, je suis perdu, on parle de quel trou du cul là à la fin?
Je ne vais pas y arriver.
Je comprends rien, moi je suis resté bloqué sur le fait qu'il y a des trous noirs, des meufs qui se touchent et tout.
C'est
donc,
très anal votre humour.
Finalement, j'ai l'impression que cet épisode doit être un must-buy quoi.
Bah, moi c'est mon coup de cœur de la semaine.
C'est pas Monica Rambeau puisqu'elle est restée sur Terre.
Mais c'est presque mon coup de cœur. Bon.
Moi c'est mon coup de
cœur. Deux intrigues sont menées en même temps. On retrouve le Conseil Galactique qui s'est pris une grosse branlée dans l'épisode précédent.
Choisis mieux tes mots aussi.
Et donc, les Vengeurs qui sont retrouvés, qui par les Builders, qui manifestement vont être torturés. Ça, on laisse à l'imagination de chacun.
Je crois qu'on a perdu ça.
Il faut que tu prennes le relais,
super,
Bruno.
C'est un bon épisode.
Ouais, prends le relais, Bruno.
Un épisode de transition, un épisode intéressant, où on voit...
Pas de transition, parce que quand même, la fin,
oui,
faut pas la rater.
Chose,
hein.
Ça avance à la fin avec un bon petit cliff, mais ça pose un petit peu... C'est entre une grosse bataille et la prochaine grosse bataille, on voit un petit peu ce qui se passe entre les deux. Il y a des choses intéressantes du côté des Builders, il y a des choses intéressantes du côté du Conseil Galactique avec surtout le chef de Spartax qui montre bien à quel point c'est un gros connard. Voilà, c'est bien écrit, c'est toujours aussi beau. Hein. Enfin, Lenny Francis Yu là, il est vraiment très en forme.
Bah, je pense que Carol Danvers l'a inspiré.
Ouais, je pense aussi. Et voilà, Infinity pour l'instant, ça continue à être toujours aussi bien.
Bah, c'est solide. Hein. Pour moi, c'est très solide cet event.
Vous l'aurez compris, c'est donc un event très sexuel que ce Infinity que nous propose Marvel.
Bah, il faut bien, hein, puisque Jonathan Hickman n'a développé aucune relation dans les Avengers, donc pour une fois qu'on a un peu de cul...
c'est léger comme cul. C'est léger.
Pour ma part, je ne l'ai pas encore lu, mais franchement, je me pose la question de savoir si je vais le prendre ou pas, étant donné que la majorité des choses importantes étaient racontées dans l'Infinity 2, ce qu'on avait raté pour le Avengers 18 et New Avengers 9. Je vais peut-être pouvoir faire l'impasse et puis me contenter d'Infinity, ça fera des économies quoi.
Bah oui, mais en même temps tu rateras ces excellentes scènes avec Ex Nihila et Captain Marvel.
Ça va être du méga soft.
C'est assez soft. Mais non, mais sympa. Franchement, efficace. Moi, c'est mon coup de cœur de la semaine et c'est un bon gros bail.
Sam ?
C'est un bail aussi.
Sam, gros bail aussi, j'imagine.
Ah, c'est Sam est parti carrément,
un bail,
je pense.
Ah oui, d'accord. Non, mais t'avais dû éteindre ton micro et oublier de le relever.
Non, j'étais toujours là. Hein.
Fap, pardon.
Allez, on va passer à la suite Infinity. C'est dégueulasse.
Si tu le dis.
C'est vraiment ignoble. On va passer à la suite. C'est Infinity the Hunt numéro 1, Bruno, au début d'une mini-série.
Oui, avec Matt Kint au scénario qui bosse décidément énormément cette semaine, puisqu'on l'a vu sur deux ou trois titres.
On aimerait bien qu'il se repose hein, parfois.
Ouais, un petit peu, ouais. On a Steven Sanders au dessin. Et donc, c'est en fait le nouveau contest des champions dans la Avengers Academy, la nouvelle version de l'Avengers Academy, où en fait on a toutes les écoles un petit peu qui comprennent des enfants à super pouvoir du monde entier qui se rassemblent pour faire un petit peu le concours et déterminer qui va être le plus balèze. Donc ça permet de découvrir les participants de la future Foundation, de l'Avengers Academy, de l'Academy du Wakanda. Enfin voilà, plusieurs écoles, présenter des nouveaux personnages et d'autres qu'on connaît déjà. En fait, là, c'est vraiment un épisode pour présenter les forces en présence. C'est sympathique, c'est pas passionnant. Ça sera une mini-série. Ce qui est intéressant, c'est le choix des personnages. Il y a le fait de retrouver, par exemple, le jeune Apocalypse, Bentley 666, enfin Bentley 23, pardon. Et voilà, il y a quelques dialogues qui sont assez savoureux. Mais ça reste quand même, finalement, un épisode vraiment de présentation des personnages. Et bien sûr, il se passe quelque chose à la fin qui sera peut-être en rapport avec Infinity. Enfin, on n'en sait toujours rien à la fin de l'épisode. Voilà, c'est correct, sans plus. Graphiquement, j'ai pas trouvé ça transcendant, à part deux trois petites idées, comme par exemple le plan de l'Avengers Academy, où j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Voilà, je sais pas, je suis le seul à l'avoir lu.
Tu es le seul à l'avoir lu, ouais. Voilà, j'ai manqué de temps moi cette semaine.
Voilà, je dirais un petit check-it, et voilà, Matt Kint, pas très en forme pour moi cette semaine.
Ce qui me paraît un peu étrange, c'est que c'est une mini en 4. Si on passe déjà un épisode complet à présenter les personnages.
C'est ça qui me gêne aussi.
Voilà.
Oui, il n'y a pas d'histoire, quoi.
Bah là, non, pas vraiment. Et puis, il y a des choses qui me chiffonnent, comme le fait de voir Wolverine présent à l'Avengers Academy, alors qu'on sait qu'au début d'Infinity, il est en train de se battre à la Jean Grey School contre les suppôts de Thanos. Donc, je sais pas comment ça va se passer.
Oui, il est occupé à se faire transpercer de part en part. Donc,
voilà, donc ça me paraît un peu bizarre aussi. Mais
quand on dit que Infinity est sexuel.
Bah oui, il y a beaucoup de métaphores. Hein.
c'est vrai.
Donc voilà. Check it pour
petit
toi Bruno, c'est
petit
ça.
Petit check it.
On va passer la parole à Bunny maintenant qui a lu le Ultimate numéro 30.
Quoi?
Bunny, tu lis du Ultimate? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe?
Ben ouais, je vais faire Bunny. Mon Bruno. Tellement Infinity m'ennuie. Toute façon Infinity, je pense pas le lire à part le premier que j'avais lu. Donc voilà. Donc je suis parti voir ce qui se passait du côté de l'Ultimate avec Joshua Fialkov au scénario et Carmine Di Giandomenico au dessin. Et d'abord, en fait, je me suis fait la réflexion que avant les titres Ultimate, c'était quand même là où ils te foutaient des artistes qui avaient le vent en poupe et qui faisaient vendre du papier. Di Giandomenico, c'est quand même vachement particulier. Et effectivement, on sent bien que l'univers Ultimate, ils essayent plus d'en faire la grosse machine à cash que c'était auparavant.
Oh, pourtant, c'est un bon dessinateur hein, quand même.
C'est efficace, mais c'est spécial.
C'est particulier. C'est très particulier. Mais voilà, et donc c'est pas grand public, quoi, j'ai envie de dire. C'est il a plutôt un style très très indé. Et alors bon pour le scénario, c'est pas mal, très honnêtement, c'est sympa. Maintenant, on sent que le scénariste range les jouets dans cette dernière partie puisque ça termine un arc pour vraiment attaquer de plein pied The Hunger. Donc alors là c'est pas de spoiler, on voit l'arrivée à la fin de Galactus, ce qu'on a vu déjà dans la série du même nom. Par contre, je vais pas dire qui était Kang, je pense, ou bien vous l'avez peut-être révélé déjà, je ne sais plus.
Non, mais tu peux garder encore la surprise, mais c'est intéressant.
Voilà, je vais pas le dire. Mais du coup, donc là, ils arrivent en fait à mettre un terme à cet arc face à Kang. C'est un petit peu expédié, quoi. C'est un petit peu vite expédié. C'est ça qui est surtout un petit peu dommage. On sent qu'il faut vite ranger les jouets et que l'agenda, éditorial, doit être vraiment mis à jour. Et c'est ça qui est un peu dommage. On sent bien que Joshua Fialkov est un peu tenu par les gens de chez Marvel qui lui disent « Bon, écoute, c'est bien sympa ton histoire, mais maintenant, faut passer à la suite. » Et ça sent le roussi. Voilà, mais très bonne histoire. Moi, j'ai bien aimé un bail solide pour cet épisode.
Tu l'avais pas lu, Bruno ?
Mais non, je ne l'ai pas lu. Pourtant, c'est la fin de l'arc, et c'est un arc qui m'a vraiment beaucoup plu, et voilà, avec des grosses surprises, des grosses révélations, c'était assez badass, et mais bon, je vais m'empresser de le lire, du coup.
Alors, on va passer maintenant à la suite de Marvel, c'est la sortie du Captain America numéro 11, Sam.
Oui, toujours scénarisé par Rick Remender, cette fois-ci dessiné par Carlos Pacheco, et fortement ancré par Klaus Johnson. Et j'insiste sur le fortement. Puisque... le style de Carlos Pacheco est quasi, je vais pas dire non reconnaissable, mais sur certaines scènes, c'est... voilà.
Ouais, enfin, en même temps, quand tu prends Klaus Johnson comme encreur, tu sais à quoi t'attendre aussi. Enfin, le mec a porté dans
sa
touche.
C'est pas mauvais, mais il faut s'habituer. Donc on a Captain America qui est donc, on peut le dire, hein, parce que c'est la saga de la Dimension Z est terminée, il est revenu sur Terre après 12 ans dans la Dimension Z, donc il doit un petit peu se réacclimater. Il est revenu avec une copine, enfin, avec une alliée, on va dire, comme ça. Et il est très impatient, surtout, de repartir sur le terrain.
Tout ça est vraiment... Peur, hein. Tu me fais peur, parce que moi, je l'avais quitté, enfin, c'était pas... Bon, enfin, bref, non, bah...
Bah, disons qu'il en a quand même pas mal chié dans la Dimension Z, et tout le monde est un peu étonné qu'il veuille tout de suite repartir au combat et... voilà, c'est bien agrémenté avec à nouveau des flashbacks sur son avance dans les années 20, notamment avec les disparitions de sa mère et comment il a géré ça. Donc il y a un joli parallèle et la manière dont il va gérer en fait la situation, son passé, ce qu'il a perdu dans la Dimension Z et comment il va gérer maintenant sa vie après tout ce temps. Donc c'est un épisode, je trouve, un peu lent. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc ça se lit assez vite. Et pourtant, c'est... Voilà. Il n'y a pas de... On a l'intrigue sur Nuke qui commence aussi. Bon, il est clairement cinglé. C'est pas le truc le plus passionnant de l'épisode. J'ai vu de bonnes critiques sur le net sur cet épisode. Et personnellement, ça m'a pas enthousiasmé. Ça m'a moins intéressé que ce qu'on avait vu sur le premier arc. Voilà.
Et juste une question. Il n'est fait aucune mention de ces 12 années passées dans la Dimension Z dans aucune des autres séries du Marvel Now, quoi. Si,
dans Uncanny Avengers.
Ah oui, bah forcément.
Dans l'épisode.
Oui, voilà. Bah forcément.
Mais
c'est,
c'est-à-dire que ça ne commence que maintenant. C'est pour ça.
Ouais.
Là, il est revenu là maintenant, donc c'est normal que ça n'ait pas encore été référencé ailleurs.
Vu qu'il s'est passé que 10 minutes sur Terre,
voilà,
ça n'a aucune incidence.
Il était dans la chambre du temps.
Ouais, voilà. Enfin, ça n'a aucune incidence sur le reste de la série. Enfin, on se doutait bien que ce serait ce ressort scénaristique classique.
Mm-hmm. Ouais. Ouais.
Et il n'est pas trop au fond du gouffre après les événements de la fin, quand même.
Ben. Disons que le flashback explique pourquoi il ne s'arrête pas. Voilà, c'est pourquoi il ne s'arrête pas pour se lamenter sur lui-même et pour pleurnicher comme une fillette. Voilà.
Ok, donc finalement.
Ça reste un bail, mais voilà, c'est un épisode de transition. Mais ça m'a moins passionné que ce qu'on avait avant. Parce que la Dimension Z était vraiment excellent.
Ok, on va terminer notre partie Marvel avec Flo qui n'a rien dit pour le moment de Marvel puisqu'il n'en a lu qu'un.
Oui.
Voilà.
J'ai
il avait
gardé
décidé de se concentrer sur DC.
Voilà. Oui. Mais il a lu un bon épisode.
C'est le X-Men numéro 5, troisième partie de Battle of the Atom.
Ben oui, c'est pas écrit par Brian Bendis. Oh, le troll, ouais.
Ben, je sais pas, j'ai bien aimé les deux premières parties.
Non, oui,
ça faisait partie de ça, j'ai oublié.
C'était passable, je trouve. Là,
ben
c'est X-Men numéro 5, troisième partie de Battle of the Atom. Ça prend la suite de All New X-Men numéro 16 de la semaine dernière. C'est écrit par Brian Wood, dessiné par David Lopez. On reprend tout simplement la suite. Hein, donc, la Jean Grey du passé et le Scott du passé se sont enfuis avec le Blackbird. Ils sont partis de la Jean Grey School pour un endroit, on sait pas où, mais aller chercher de l'aide ou je sais pas, parce qu'ils sont pas contents qu'on veut les renvoyer dans le passé et c'est trop triste, et qu'ils font leur crise d'ado. Excusez-moi, mais c'est ça, non ? C'est pas ça ? C'est à peu près ça.
Un peu.
Complètement.
Bon. Les X-Men du présent, du futur et Iceman
de
et Beast
du subjonctif
du passé, c'est-à-dire toute une bande de X-Men vont partir à leur recherche, enfin pas tous, il y en a qui restent à la Jean Grey School et ils vont partir à leur recherche et voilà, et c'est un petit peu en gros ce crossover c'est juste le Scott du passé et la Jean Grey du passé qui traversent les différentes séries X-Men et qui disent coucou à tous les personnages des différentes séries X-Men, j'ai l'impression.
Non mais c'est vrai, non, enfin
comme je sais que ça m'a aimé, on va finir sur une note positive. Moi je vais donner ce que j'ai pensé, c'est un épisode qui ne sert strictement à rien.
Non, c'est...
À rien du tout,
oui,
parce que...
ça ne sert à rien.
Ce qui se passe à la fin... C'était clairement ce que je pensais qu'il se passait à la fin de la partie précédente.
Voilà, c'est...
Bah, disons que tu sais ce qui se passe en voyant la couverture de Uncanny X-Men 12.
Non, mais même sans regarder la cover, moi, pour moi, c'était logique ce choix-là.
C'est logique.
C'était logique ce choix-là, donc je pensais que ce serait déjà ça. Et donc là, en fait, c'est un épisode qui ne sert à rien.
Voilà, c'est juste Scott et Jean qui passent en moto voilà, pour aller dans une... on va pas vous dire où, mais voilà, et puis les autres qui leur courent après. Donc c'est rigolo, parce que c'est, j'ai trouvé que, ça, que c'était très bien écrit et très bien dialogué. Non mais c'est vrai, c'était bien écrit. Bien
ah
dialogué,
non, je suis désolé, moi j'ai trouvé très sympa les deux premiers épisodes, contrairement à vous, mais alors celui-là je l'ai trouvé pathétique, pour moi c'est un gros pass aussi, j'ai trouvé ça tout nul, la relation entre Jean et Scott. Surtout les réactions des autres personnages. La réaction des autres personnages de Rachel, la réaction de Wolverine qui fait des petites blagues de merde. Franchement, j'ai trouvé ça super mal écrit. Et le fait d'avoir lu les deux premières parties par Bendis et avoir après du Brian Wood, je trouve que ça casse en plus le ton. Et c'est vraiment différent. Et moi, ça me choque et ça me gêne dans ce crossover. Et moi, j'ai vraiment trouvé que ce numéro servait à rien du tout. Et vraiment, comme
si... Il y avait rien à casser déjà. Non, c'était déjà pété d'entrée.
Ouais, non, parce que moi, je trouvais ça sympa les deux premiers. Et là, j'ai trouvé ça vraiment tout pourri.
Il sert pas à grand-chose, mais j'ai trouvé ça drôle.
Moi, j'ai aimé. À ma grande surprise, je trouve que Brian Hunt en sort très bien sur cette série X-Men. Je pensais qu'il allait se chier dessus comme sur Ultimate X-Men, et non. Il gère très bien ses personnages.
Ouais,
il continue...
mais enfin, tu sais, son run sur Asto... c'était sur Asto, je crois. Non, il était passé sur la série
X-Men
tout court.
Qui était à chier aussi.
Et ben, moi, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, son run sur Adjectiveless X-Men.
De l'année dernière ? Ah non, il était très mauvais.
Ah bah,
j'ai arrêté au bout de 3-4 épisodes parce que c'était acheté.
Ouais, mais en même temps, toi, t'as des goûts de chiottes, t'aimes Battle of the Atom, donc voilà.
Enfin, moi j'avais trouvé très chiant cet arc avec Omega. Omega qui, je crois, je sais plus comment il s'appelait. Avec Wolverine.
Ah, la mini, là.
C'était Wolverine and the X-Men, une mini-série Wolverine and the X-Men par Brian Wood.
Ah oui,
dans le casino de l'espace.
Qui était super passable.
Mais là, il s'en sort très bien, je trouve. Il tient bien les personnages. Donc, pour moi, c'est un putain de bail. Et puis, David Lopez, au dessin, qui est une excellente surprise. Ah, je trouve qu'il a vraiment bien évolué.
C'est cool, mais il a du mal avec les bouches, parfois. Mais sinon,
tout est bon dans cet épisode.
Au niveau des références, il s'est clairement inspiré du run de Quietly. Hein. Parce que tu regardes sa jingle première page, tu regardes
c'est une bonne
référence. Deuxième personnage, je vais encore garder le mystère sur qui c'est, mais...
Moi, je trouve qu'il s'est inspiré aussi John Cassady sur certains dessins.
Peut-être. Mais je trouve qu'il évolue bien. Moi, c'est un bail.
Non, mais ça sert pas à grand chose dans la continuité de l'histoire. C'est vraiment passable pour ça. Mais j'ai trouvé vraiment les dialogues drôles, quoi. Il y a des vannes, des trucs vraiment rigolos. Donc, j'ai passé un bon moment de lecture. Et comme, honnêtement, Battle of the Atom, je préfère le prendre en n'y attendant pas grand chose. C'est un bail pour moi.
À mon avis, on est déjà à la troisième partie, donc sur 6 au total, on est arrivé à la moitié du crossover.
C'est en 10, hein.
C'est en 10, c'est pas en 6 ?
Non, c'est en 10.
4 et 4 plus 1 au début, 1 à la fin.
Oh putain.
Bah oui.
Bon, déjà, troisième partie, pour moi, il s'est rien passé, donc c'est cool, c'est bien.
Il s'est rien passé, mais j'en attends rien, mais j'ai trouvé ce numéro rigolo, bien dialogué.
Il n'y a rien à attendre du tout.
Voilà.
Enfin, je veux dire, on sera au même statu quo qu'au départ.
Non, mais ça a révolutionné l'univers des X-Men et
c'est ce qu'a dit Bendis. Hein. Ça va tout changer dans l'univers des X-Men, ça va révolutionner.
Non, ça va pas tout changer, mais pour moi, il y aura des évolutions.
Ouais. Ouais, j'attends de voir, perso. Donc, pour moi, ça va pas, ça sert à rien.
C'est un bail.
Moi, c'est un bail.
Petit pass.
Ok, deux passes de bail, voilà. Et il y a un pass qui vient d'un mec qui a quand même aimé les deux premières parties. Donc,
oui, en plus.
Attention.
Je t'aime, Sam. J'ai rarement l'occasion de te le dire en face, je t'aime.
Allez, on va terminer notre partie de review avec les TPB sortis cette semaine. Alors, on commence, on va rester dans le X-Men et le Marvel, puisque ressort enfin le Uncanny X-Men Omnibus en hardcover. Ça vaut $100 et ça contient le Giant Size X-Men numéro 1, les X-Men 94 à 131, ainsi que le troisième annual. C'est du tout bon.
Bah, ils auraient pu pousser jusqu'à la fin du run Claremont-Barnes quand même. 10 épisodes de plus et c'était bon.
Ouais, en même temps, t'as vu déjà le nombre d'épisodes qu'il y a dans l'Omnibus.
On s'en fout. Faudrait pas les faire logique, hein.
Donc il y a du Wayne, du Cockrum, du Burn, du Claremont. Enfin, ouais. c'est juste.
Mais sinon, oui, c'est du tout bon. Hein.
C'est immanquable, quoi. Et c'est le seul moyen d'avoir à pas trop cher autant d'épisodes. Et là,
ah
c'est...
non, il y a les essentiels.
Les essentials, mais par contre, c'est du noir et blanc.
L'essential,
ça gêne pas.
Numéro 1 qui rassemble ces épisodes et out of print. Il doit être trouvable en librairie, mais il est out of print.
Il y a eu, il y a eu déjà des deuxième et troisième éditions normalement.
Ah ben, ouais, je te jure, j'ai cherché partout, je les trouve pas. Donc
écoute, moi,
je vais foncer
là-dessus. Bien bon, chaud,
on va mettre tout le monde d'accord. On va mettre à ce prix-là et dans cette qualité avec en couleur, c'est le meilleur prix.
C'est clair.
Oui, non, mais c'est clair. Pour là, c'est du hardcover, c'est de la couleur. C'est de l'omnibus, donc c'est soigné au niveau des pages. C'est pas du page papier journal, parce que c'est vrai que le Essential, ça reste quand même du journal, quoi. On continue avec Iron Man par Kurt Busiek et Sean Chen. Omnibus, là aussi, ça vaut $125 cette fois-ci. Alors là, ça reprend toute une palanquée de numéros avec Iron Man 1 à 25, le Captain America 8, Quicksilver 10, Avengers 7, Iron Man et Captain America Annual 98, Fantastic Four 15, Iron Man Annual 99, Thor 17, Peter Parker Spider-Man 11, Juggernaut The 8th Day et enfin Iron Man The Iron Age 1 et 2. Toute une énorme collection de numéros. Alors, ce sont des numéros qui datent de la fin des années 90 pour retrouver ce très 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 bon run de Kurt Busiek et Sean Chen en omnibus.
Qui a juste sauvé Iron Man.
Un run qui avait été primé par de nombreux Eisner Awards à l'époque.
Et, ouais. Et comme quoi, bah, les Eisner représentent un petit peu le mainstream de temps en temps.
Ouais,
vraiment
ouais,
de temps en temps.
Ça arrive.
Parlons d'une autre très très bonne période d'Iron Man maintenant, c'est Avengers Iron Man TPB First Sign, à la sortie du crossover The Crossing, milieu des années 90, hein, on est en 1996 je crois. Eh bien Tony Stark avait changé, Tony Stark était devenu méchant, on l'avait remplacé par un double de lui qui venait d'une dimension et c'était un double jeune d'une autre dimension.
Ça me rappelle au New X-Men, c'est comme la série télé pour les enfants là.
C'était juste avant Onslaught, et donc ça reprend tout ce crossover First Sign avec les épisodes de Captain America numéro 449, Thor 496, Iron Man 326 à 331 et Avengers 396 à 400. Ça vaut $34.99 si vous avez envie de vous retaper cette période qui est oubliable.
Ouais, ou de vous clairement. Faire retaper par cette période, c'est comme vous voulez.
On parlait d'Essentials tout à l'heure, en voici un qui sort cette semaine, c'est le Essential Avengers TPB numéro 9, avec les Avengers 185 à 206, l'Annual numéro 9, ainsi qu'un petit bout de Tales to Astonish numéro 12, et c'est notamment du George Perez au dessin pour $20. Ça reste du noir et blanc, mais c'est très bon.
Oui, mais ça, pour des comics de cette époque, le noir et blanc, ça gêne pas.
Ah ouais, non, le style est tout à fait adapté. Hein.
Ouais.
Enfin, terminons notre... Non, on va pas terminer notre partie Marvel parce qu'il en reste encore un. C'est Shield par Steranko en TPB. Ça vaut $35 et vous allez retrouver Nick Fury Agent of Shield 1 à 3 ainsi que le 5 et du matériel de Strange Tales numéro 151 à 168. Tout l'univers de Steranko sur Nick Fury et le Shield. C'est vraiment du très très bon si vous voulez découvrir ça. C'est une très très bonne période du très grand comics.
Bah, du révolutionnaire.
Ouais, pour l'époque, surtout que ça date de 68, hein, rappelons-le.
Ouais.
Ça vaut donc $35. Et enfin, Inhumans par Paul Jenkins et Jelly, le hardcover de toute cette maxi-série en 12 épisodes pour $40. Là aussi, c'est du très très grand, du très très bon, ça.
Un des premiers
Avant
travaux
que
de Jelly.
Fraction ne les massacre bientôt.
Flo, tu disais ?
Un des premiers travaux de Jelly. C'est dans le mainstream.
Non.
Qu'est-ce qu'il peut dire comme bêtise, ce
Namor. Namor,
ah oui, Namor, pardon, je confonds avec Namor. Putain, Namor. J'ai confondu avec Namor, mais j'avais Namor en tête, en fait. Je suis con.
Il était même passé sur des épisodes de la série solo de Wolverine, hein, si ma mémoire est bonne.
Vivement les épisodes de Matt Fraction sur les images.
Pardon, tu couperas au montage.
Oui. Peut-être, je ne sais pas. Bien sûr. Dépend du temps dont je dispose demain, ce qui n'est pas forcément gagné d'avance. On va continuer avec Image maintenant. East of West TPB numéro 1, les 5 premiers épisodes de cette série par Jonathan Hickman, dessiné par Nick Dracota. C'est un TPB Image, un premier, ça ne vaut pas cher du tout, ça vaut $10.
C'est un bail.
Donc en gros, 7-8 euros.
C'est un bail.
Ouais, voilà.
C'est une très bonne nouvelle série, intéressante.
Intéressant, ça, la lecture sera mieux en TP, hein, parce que j'ai eu du mal à comprendre les 3 premiers épisodes, c'est compliqué. Mais quand t'as les 5, tu commences un peu à remettre les choses en place, mais ça reste quand même assez énigmatique.
Je vais dire, j'ai pas eu de mal à comprendre.
On reste quand même unanime, hein, c'est une série qu'il faut lire.
Ouais,
à lire.
Au moins,
ouais.
Au moins pour voir ce que c'est, quoi.
Ouais, ça change.
Et enfin, chez Image, on retrouve aussi Five Weapons en TPB, donc qui reprend la mini-série Five Weapons numéro 1 à 5, avec quelques petits extras supplémentaires, donc notamment des sketchs, des choses comme ça. Ça vaut $16, et c'est le moment parfait pour s'y mettre, puisque je crois que cette série a obtenu un ongoing.
Tout à fait, et c'est très sympathique, c'est du Jimmy Robinson, c'est rigolo, c'est fun.
Bonne petite série où on a une académie de...
Le tueur.
Un peu comme Poudlard, mais sauf que là, c'est pas un animal qui les représente, c'est une arme.
Ouais, c'est voilà. Des tueurs.
On
c'est
passe
Naruto,
maintenant
quoi.
Chez...
Mais non.
Mais
pas vraiment, quand même. On passe maintenant chez DC et Vertigo. On commence par Vertigo avec un projet qui arrive en TPB. C'est Neil Young's Greendale. C'était scénarisé par Joshua Dysart avec des dessins de Cliff Chiang. Ça vaut $15. Ça sort en TPB.
Oui, c'est l'adaptation en graphic novel de l'album de Neil Young Greendale sorti en 2003. C'est un projet qui a été annoncé en 2007, qui est enfin sorti en graphic novel en 2010 et qui est réédité là en version souple seulement maintenant. C'est un peu curieux.
En 2013. Voilà. Et nous attendons donc la version.
J'ai pas du tout lu, mais je trouve le projet intéressant et ça change quoi, l'adaptation d'un album concept. Donc ça parle d'une.
Ça a déjà été fait.
La vie d'une
déjà
famille
fait,
dans une petite ville qui s'appelle Greendale. Et ça, voilà, c'est un album très 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 sympa de Neil Young et de Crazy Horse. Et voilà, je connais pas, je suis curieux d'aller voir en tout cas.
À et écouter puis, en lisant. Donc
Joshua Dysart, ouais. C'est un auteur que j'aime beaucoup, donc ça peut pas être mal.
Je vais quand même préciser que ça avait déjà été fait, ce genre de truc, notamment chez Marvel, avec Alice Cooper's The Last Temptation, qui était scénarisé par Neil Gaiman, quand même.
Ah oui.
Et
oui,
une mini en trois. Et ouais, ouais, ouais.
Et ne serait-ce que tous les comics.
Culture, Steve.
Les comics Kiss, bien sûr.
Oui, non, mais là, c'était une véritable adaptation d'album, en fait. Le The Last Temptation, c'était véritablement l'adaptation d'album, parce que c'est un album concept, là aussi. Donc ça avait déjà été fait dans les années 90 chez Marvel.
D'accord.
Mais oui, enfin, voilà, après, Neil Young, Alice Cooper, c'est pas exactement le même style. Musical.
Tout à fait.
On continue avec du Dark Horse Milligan et McCarthy en hardcover. Ça reprend les travaux de Peter Milligan et Brendan McCarthy
pour
$25.
Sur leurs tout premiers travaux sur 2090 AD, chez Vertigo, des trucs qu'ils ont récupérés chez Dark Horse et tout. Donc ça réédite voilà, plein de récits en fait, faits par Milligan et Brendan McCarthy. Si vous aimez Milligan, c'est plutôt cool parce que c'est ses premiers écrits assez caustiques. Voilà.
Avec notamment aussi des commentaires hein, sur ces premiers travaux-là, commentés justement par Milligan et McCarthy eux-mêmes. Donc peut-être un regard des années plus tard sur ce qu'ils avaient produit au départ, ça peut être très intéressant. Et ça vaut pas si cher que ça, $25, c'est pas excessif. On termine enfin avec du Boom. Boom qui continue de sortir Robocop de Last Stand. La deuxième partie est sortie cette semaine, bon, on l'a pas lu, on l'a pas chroniqué, mais là ils vont ressortir le premier run de Frank Miller sur Robocop. Ça vaut $20, donc Robocop avec une cover de Juan José Rip notamment pour le TPB, mais sinon c'est Miller qui scénarise et qui dessine.
Oh, interesting.
Wow.
C'est de l'ancien ça.
Oui, c'est l'adaptation du
Robocop 3
2.
Non,
Robocop 2.
Robocop 3 c'est Last Stand.
Le 3, c'est oui, voilà, Last Stand, c'est le 3 tel qu'il aurait dû être si c'était vraiment lui qui avait écrit, s'il n'avait pas fait des changements tels qu'on a pu voir dans le 3 avec un jetpack et des ninjas samouraïs. Robot. Donc c'était une mini en 9, voilà. Si vous voulez retrouver ça, c'est parce que ça devient assez difficile à trouver, ça avait été publié chez Dark Horse à l'époque. C'est pas forcément facile à retrouver, ouais. C'est un bon moyen de pouvoir le lire.
En tout cas, Robocop 2, c'était hardcore. Hein. Je me rappelle l'avoir vu étant jeune, ça m'avait aussi bien impressionné.
Avec Kane.
Avec le mec qui se fait lobotomiser et reconstruit en robot, là. C'était...
Quelle horreur. Cette partie où on voit le cerveau avec les yeux, putain, ça m'avait marqué quand j'étais gosse.
Ah, c'est oui, mais il lui enlève la boîte crânienne comme ça, ouais, tu vois tout. C'était pire
ça
que
ça. Ça dépend à quel âge tu vois ça, mais quand tu vois ça jeune, comme je pense que nous on l'a vu, c'est quand même assez marquant. Comme
je l'ai vu à 8 ans, je crois. 8-9 ans.
Bah, pareil. Dans ces eaux-là aussi. Ça explique peut-être beaucoup de choses sur nos comportements actuels. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous remercie de nous avoir écoutés.
Je vais faire un petit big up à deux.
J'allais y venir. J'allais y venir, Bruno. Je n'ai pas oublié.
Merci, Steve.
Mais je t'en prie. On va se quitter avec un petit message de Bruno.
Oui, je veux faire un petit big up à deux auditeurs qui sont passés au Comic Shop cette semaine. Et donc il y a Oscar qui est un grand fan de Kevin Smith avec qui j'ai pas mal discuté et qui apprécie beaucoup ce que tu fais au niveau radio, Steve. Voilà, ta voix et tout, il dit que c'est super, que t'as une super voix.
Eh bien, je le remercie fortement.
Et voilà, et j'ai eu aussi le passage de Nico Tokyo qui nous écoute depuis le Japon en fait. Et là, il était de passage en France et il est passé au Comic Shop et ça faisait super plaisir. Donc on nous écoute même au Japon. Donc c'est la classe.
Mon dieu, cool. Comic City est totalement international maintenant.
Voilà. Donc gros big up à vous deux.
Eh ben merci à eux, hein, et voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude.
Attends. Oh, est-ce qu'ils ont dit des choses sur nous, les autres?
Non.
Non, même pas.
Ils
apprécient vraiment tout ce qu'on fait et il faut absolument qu'on continue. C'est trop bien. Voilà.
Vous remarquerez que dans les mails, je reçois quasiment jamais de compliments. Alors pour une fois que c'est pour moi, d'habitude c'est toujours pour les autres. Bon, quand même. Laissez-moi savourer un tout petit peu.
En fait, Bruno, tu peux le dire que t'as inventé ça pour faire plaisir à Steve.
Non, pas du tout.
Peu importe, je m'en fous, je prends quand même. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine dose de review et encore beaucoup de review au programme. C'est un mois très chargé que ce mois de septembre. D'ici là, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter. Vous nous envoyez des mails à l'adresse podcast@comiccity, mail que nous lirons et répondrons aux questions éventuelles dans le Weekly News qui, je le rappelle, sort tous les mardis en début d'après-midi. Ou milieu, ça dépend du temps. Voilà. Bon, ça sort le mardi après-midi, comme ça on prend pas de risque. Merci à vous et à la semaine prochaine.
Écoutez les Big Box. Oui. Et lisez des comics.
Oui.
Bisous.
Et écoutez les Big Box en lisant des comics. Voilà, tout simplement.
Écoutez
voilà.
Comics Weekly. And you have